Matthieu, chapitre 11, vous connaissez cette invitation qui parcourt l'humanité depuis des siècles. Depuis que le Maître est venu sur la terre, cette invitation demeure. Et c'est vrai que les invitations, toutes les invitations, toutes les promesses doivent être certainement étudiées dans le contexte où elles ont été écrites. Et le contexte, justement, c'est ce verset, Matthieu 11, 12. Je voudrais, mes frères et sœurs, que nous écoutions, surtout ceux qui n'arrivent pas à avoir Jésus comme Seigneur. Je ne parle pas Sauveur, ce Dieu puissant qui est capable de diriger notre vie. Regardez ce verset qui a été donné en prophétie tout à l'heure, Matthieu 11, 12, c'est Jésus qui parle depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent. Le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Mes frères et sœurs, c'est une vérité. Le royaume des cieux s'empare par cette violence, cette détermination que nous devons avoir. Le Seigneur donne des enseignements, il fait des reproches. Et puis, après avoir fait des reproches, au verset 25, il dit ceci. N'oublions pas, il y a toute une foule qui est là, les gens écoutent, il y a de toutes sortes de gens. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue, de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. » Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. Mes frères et sœurs, cette invitation, elle est valable ce matin pour tous. Et même si vous êtes entrés, même si vous marchez, laissez-moi vous dire que vous devez prendre au sérieux ce que vous allez entendre. Cette invitation, elle est là parce que Dieu sait où vous en êtes, où nous en sommes. Il y a des gens, vous savez, qui ont vraiment besoin de revenir à Jésus-Christ. De s'approcher de lui, même si on est chrétien depuis longtemps, moi le premier. Nous avons tous besoin d'être touchés par la grâce de Dieu, de retourner, comme David le dit dans le psaume 116, verset 7, pour ceux qui prennent des notes. Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Et croyez-moi, si vous lisez le psaume 116 ce soir, vous allez voir que cet homme est dans une grande souffrance, des douleurs, des terreurs, des difficultés. Il n'en peut plus. Et pourtant, il prend la décision, il dit à son âme, écoute, mon âme, retourne à ton repos. Vous savez, la vie, elle est faite de combats. La vie, elle est faite de luttes. Tout ça doit être vécu dans le repos. On va prendre deux versets qui ont été dictés par David lui-même. Regardez, David dira, alors c'est dans le psaume 41, oui, que je ne me trompe pas, dans le psaume 41, il parle de ses luttes et de ses combats. C'est David. C'est un psaume qui indique que l'âme de quelqu'un peut être malade. Est-ce que vous le savez que notre âme peut être malade? Vous le savez? Mes frères et sœurs, est-ce que vous savez que de la même manière que le corps peut être malade, ça c'est facile, on le sait, est-ce que vous savez que notre âme peut être malade? Eh oui. Psaume 41, verset, c'est un psaume de David, vous le voyez au premier verset. Et regardez ce qu'il dit. Je dis, Éternel, aie pitié de moi, guéris mon âme. Son âme, elle est malade. Alors pourquoi elle est malade? Car j'ai péché contre toi. Le même homme, par exemple, alors là, on n'a que l'embarras du choix, vous le comprenez, il y avait tous les psaumes qu'il y a, dans le psaume 131, c'est le même homme, des mois ou des années après, peut-être même des décennies après, qui dit autre chose, il est roi,
Il est roi, il n'a pas berger là, il est roi.
Regardez ce qu'il dit. Regardez comment notre âme peut passer d'un état de maladie à un état de très bonne santé. Psaume 131, cantique des degrés de David. Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Vous savez, il était roi, il aurait pu, comme les jeunes disent aujourd'hui, se la jouer. Non, je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop élevées pour moi. Loin de là, regardez dans quel état est son âme. J'ai l'âme calme et tranquille. Comment ? Comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Bien sûr, il exhorte les autres à faire pareil. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Donc ces deux psaumes indiquent deux expériences que nous vivons tous. Ces moments où nous sommes dans la santé spirituelle, j'ai l'âme calme et tranquille, vous savez, comme un bébé qui a pris la tétée et qui est là, qui dort tout affalé, dans une confiance totale. C'est l'image de la santé spirituelle, de ce confort spirituel. Et en même temps, les épreuves, les combats, les luttes, les tentations, nos échecs peuvent nous amener à devoir dire au Seigneur « guéris mon âme ». Notre âme, elle peut être mal en point. Si vous avez lu le livre des psaumes, moi j'en ai noté quelques-uns, je l'avais fait en son temps. Mais regardez, mon âme est troublée, c'est David qui le dit. Mon âme est dans l'effroi. L'effroi, c'est quand on a vraiment peur. Vous avez déjà eu peur ? Mon âme est dans l'effroi. Mon âme est indigente. Oui, indigente, c'est pas pauvre. Un pauvre, on dit des fois, telle personne, elle est pauvre, elle a pas grand-chose, elle est pauvre. Mais elle a de quoi ? L'indigence, ça veut dire qu'on a rien. Vous savez, quand vous vous retrouvez nu spirituellement, Ça vous est peut-être arrivé, mais je n'ai plus rien. J'ai même remis en question mon salut. Ça vous est jamais arrivé d'en arriver à ce stade où vous en êtes arrivé à ne même pas vous réjouir du salut? Moi, ça m'est arrivé. Ça a duré quelques mois. Mais j'étais là, j'ai dit, mais c'est pas possible. Quand je lisais, réjouissez-vous de ce que votre nom s'est inscrit dans le livre de vie. Moi, je disais, mais on ne peut pas faire la comédie avec Dieu. J'y arrivais pas. J'étais indigent, je m'étais fait piéger par de l'adversité, par des conflits, par des combats charnels. Vous savez, quand la Bible dit de lutter pas contre la chair et le sang, vous savez ce que ça veut dire ? Ça vous est déjà arrivé ? Quand on combat contre la chair et le sang. Notre âme, elle peut être brisée, qu'est-ce qui est écrit encore ? Affamée, éperdue, triste, mon âme est triste. Mon âme est angoissée, mon âme est abattue, mon âme est affamée, mon âme est éperdue. Mon âme pleure, mon âme est languissante, mon âme est desséchée, mon âme est dégoûtée. C'est David, c'est qui l'a dit ça ? C'est Job, mon âme est dégoûtée de la vie. Mon âme souffre, etc. Ça prouve quoi ? Ça prouve que, vous voyez, même quand on s'appelle David et qu'on est un homme selon le cœur de Dieu, il y a quand même des moments où notre âme peut être mal en point. Et il faut l'accepter. Mais il faut surtout pas rester dans cet état. Ce que certains chrétiens font depuis longtemps, malgré ces épreuves et ces combats, ils restent dans le combat, dans le mauvais combat, parce qu'il y a un bon combat. Ils restent dans la défaite, ils restent dans le rêve. Ils aimeraient aimer Dieu, ils aimeraient aimer la parole, ils aimeraient prier, ils aimeraient être ces chrétiens que Dieu voudrait qu'ils soient. Mais ils n'écoutent pas la parole, ils n'écoutent rien. Ils entendent et ils sont capables de voir la paille qui est dans l'œil de son frère à 50 kilomètres et incapables de voir la poutre qui est dans leur œil parce qu'il y a un problème. Et on devrait arriver à cette faveur. Hier, je lisais l'épître de Philémon, quand Paul dit à Philémon, mais par toi, frère, est-ce que vous vous rendez compte ? Par toi, le cœur des saints a été tranquillisé. Je ne sais pas ce que vous avez envie que Dieu vous dise quand vous allez passer devant Dieu, mais je peux vous dire que ça ne dépend que de nous. Vous avez envie que Dieu vous dise un truc pareil ? Tu sais, par ton témoignage, par tes paroles, le cœur des gens a été tranquillisé. Vous avez envie d'entendre quelque chose comme ça ? Mais c'est ce qui va arriver, laissez-moi vous le dire. Le Seigneur a dit, venez à moi, parce que Dieu a envie que nous lui soyons agréables. Vous vous rendez compte que cet homme qui était inutile, en plus, Philémon, quand vous lisez Philémon, ça veut dire utile, il a été inutile, il est devenu, il a fait un choix, il s'est fait violence.
par toi, frère. Le cœur des saints a été tranquillisé. Il en rajoute, il est en prison, il dit, mais tranquillise mon cœur. Dans une église, dans une assemblée, s'il y a une chose qui caractérise la vie de l'esprit, c'est que on se procure la paix, la tranquillité. Oui ou non? C'est quoi le fruit de l'esprit? L'amour, la paix, la joie, la bonté, la bénignité. La bénignité, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on fera une étude là-dessus, vous allez voir. Voyez, on lit des mots, et je voudrais ce matin vous l'expliquer. On lit des mots, on devrait quand même dire, mais je vais prendre mon dictionnaire et je vais voir qu'est-ce que ça veut dire. Mes frères et sœurs, quand Jésus s'est présenté, n'oubliez pas, c'est pas Jésus un homme, c'est le Dieu Tout-Puissant. Vous le croyez que Jésus est Dieu? Il s'est dépouillé de sa gloire parce que sinon on n'aurait pas pu l'affronter. Il est venu comme un homme. Il est le Dieu du ciel et de la terre. Et il a dit à tous ces gens, il y en avait certainement de tordus comme tout, comme aujourd'hui, venez à moi vous tous. Il a le pouvoir de nous changer à tous pour faire de nous des sources de bénédiction. Comment on peut chanter ces beaux cantiques qu'on a chantés? Comment on peut chanter la terre est remplie de sa gloire? Bon, la terre, d'accord, mais est-ce qu'on pourrait chanter, on pourrait rajouter une strophe, ma vie est remplie de ta gloire? Est-ce que Dieu peut remplir la vie de quelqu'un de sa faveur? Mes frères et sœurs, nous devrions, nous sommes là, nous on est obsédés par l'évangélisation, et c'est bien. Mais mes frères et sœurs, Dieu lui il est préoccupé par la santé de l'Église, par le fait que les chrétiens soient entrés dans le repos. Quelqu'un me disait l'autre jour, mais vous avez la paix avec tout ce qui se passe? Eh bien j'ai dit oui. Vous avez la paix? Vous êtes heureux? Oui. Mais comment ça se fait? J'ai dit parce que je marche avec le Seigneur. Et je suis sûr que même si les ténèbres s'épaississent, même si les choses deviennent de plus en plus difficiles, et elles seront de plus en plus difficiles, c'est écrit. Mes frères et sœurs, le chrétien, il devrait avoir l'honneur, la joie de rendre un bon témoignage. Je répète, malgré les luttes, malgré nos combats, parce qu'on peut avoir cette honnêteté de dire « Oui, mais mon âme est malade, guéris mon âme ». Est-ce que Dieu peut guérir une âme? Est-ce que Dieu peut guérir un corps? Est-ce que tout à l'heure, quand nous allons prendre le pain et le vin, franchement, on peut faire un acte de foi et dire « Seigneur, mais mon âme, elle est mal en point. Je suis tout le temps dans le murmure, pour reprendre l'obstacle que nous avons abordé la semaine dernière. Je suis tout le temps en train de murmurer. Vous avez vu ce qu'il était dit, des conséquences du murmure. La colère de Dieu s'est enflammée. Et comme je vous l'ai dit, le jugement était complètement disproportionné à nos yeux. » Mais en vérité, lorsque quelqu'un commence à murmurer, il ne se rend pas compte qu'il ne va pas pouvoir faire la volonté de Dieu. Et le diable, il s'en fiche, il n'a pas besoin de vous faire tomber dans des péchés super grossiers. Le diable, lui, à partir du moment où il met quelqu'un dans le murmure, il empêche l'œuvre de Dieu de se faire. Et voilà, la porte est bloquée, il ne faut pas grand-chose, vous savez, pour bloquer une montre, il faut un grain de poussière. Pour bloquer un chrétien, il faut un petit péché, parce que nous l'appelons petit péché. Bien sûr qu'il vaut mieux murmurer que mentir, il vaut mieux mentir que commettre l'adultère, etc. Mais mes frères et sœurs, soyons intelligents. Nous devrions savoir ce que ça veut dire quand même, venez à moi. Vous allez me dire, mais monsieur Gou, ça c'est pour les païens, c'est pour les inconvertis. Mais non, mes frères et sœurs, le Seigneur, il a dit à tous ses enfants, il ne suffit pas de venir au Seigneur, il faut demeurer en lui. Jésus n'a pas dit, venez à moi. Il a dit, venez à moi et demeurez avec moi. Et vous, n'importe qui d'intelligent, comprendrez très bien que si le Seigneur nous demande de venir à lui, ce n'est pas pour faire un aller-retour de 5 minutes, c'est pour rester avec lui. Et que si je me suis permis de prendre le contexte dans lequel Jésus fait cette invitation qui correspond à la prophétie de tout à l'heure, ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux, c'est parce qu'il faut qu'on soit déterminé. Beaucoup de chrétiens sont déterminés peut-être le dimanche matin. Le dimanche matin, c'est non négociable. Je ne peux pas me permettre de rater le culte. Mais toute la semaine, ils peuvent le vivre sans Dieu. Mes frères et sœurs, la violence que le Seigneur nous demande d'avoir par rapport à nous-mêmes, c'est une violence qui n'est pas liée à quelques heures le dimanche, c'est une violence qui est liée à toute notre vie. Mes frères et sœurs, c'est sérieux. Vous savez, je voudrais aborder certains aspects parce que je voudrais être le plus pratique possible. Écoutez bien, je n'ai pas envie de faire des études bibliques qui sont intéressantes parce qu'on apprend plein de choses qu'on ne connaissait pas. Et on pourrait, franchement, je pourrais, en toute humilité. À quoi ça servirait? Que je vous explique les sauts, les trompettes, les tonnerres, les coupes de la colère, ce qui était très très intéressant quand même. Si on n'est pas rentré dans le repos, Si quelqu'un n'est pas dans cette victoire, s'il est tout le temps dans le psaume 41, on a presque à même de basculer dans d'autres. Le Seigneur a été annoncé par le prophète Esaïe, on l'appellera conseiller. Ce matin, vous allez avoir un conseil de plus. Parce que le monde entier donne des conseils. Est-ce que le monde donne des conseils? Oui, des bons et des mauvais. Dans le monde, il y a des bons proverbes. Je ne sais pas si des fois vous allez lire les proverbes. Je ne sais pas si ça vous aide. Pas les proverbes bibliques, les proverbes du monde. Il y a de bons proverbes dans le monde. Par exemple, j'en ai relevé un hier. La familiarité engendre le mépris. Ça, c'est un proverbe français. Qu'est-ce que vous en pensez? Ne vous inquiétez pas, je ne sors pas de ma prédication, vous allez voir. La familiarité engendre le mépris. Est-ce que c'est vrai? Comment? Oui, moi je pense que c'est vrai. Dans beaucoup d'églises, il y a eu une grande familiarité. Croyez-moi, ça n'a pas amélioré la piété, croyez-moi. La familiarité engendre le... Il y en a d'autres qui sont acceptés par des chrétiens et qui ne sont pas vrais du tout. Par exemple, j'ai entendu, moi, une chrétienne, il y a quelque temps, dire ceci. L'indifférence est le pire des mépris. T'as qu'à faire comme ça. Ou un autre qui dit, l'indifférence est le meilleur des mépris. Vous l'avez déjà entendu, ce proverbe. J'espère que vous n'êtes pas cette chrétienne qui l'a dit. T'as qu'à être le plus indifférent possible. T'as qu'à le mépriser. Voilà. Écoute mon conseil. Il est biblique. Et puis, il y a des gens qui s'autorisent à prendre des proverbes du monde pour les comparer à la parole de Dieu. Quand Jésus dit « Recevez mes instructions », il faut quand même que je sache si tel proverbe ou telle parole correspond à la parole de Dieu. D'accord? Oui, la familiarité engendre le mépris. Et c'est certainement pas bon d'être trop familier avec les gens. Ça, c'est bon. Mais qu'est-ce qu'elle dit la Bible sur le mépris? Vous allez voir ce que dit la Bible. Proverbe 14. Vous savez, je vous ai dit il y a plusieurs mois en arrière que nous devrions lire le livre des Proverbes pour pouvoir peut-être le partager avec notre conjoint, avec nos enfants, faire des petits cultes en famille, parce qu'il y a plein dans chaque chapitre des proverbes qui indiquent s'il y a ce qui est bien, ce qui est agréable à Dieu, ce qui promet un péché. Je vous avais demandé de le faire, je ne sais pas si vous le faites. Mais moi je peux vous dire que c'est une grande bénédiction de le faire. Dont le monde parle du mépris comme étant une qualité, regardez ce que Dieu dit du mépris. Proverbe 14, 21. Vous vous rappelez ce que j'ai dit au début? Recevez mes instructions et vous trouverez le repos pour vos âmes. Proverbe 14, 21. Celui qui méprise son prochain, qu'est-ce qu'il fait? Il commet un péché. Alors là, on entre dans un véritable débat. Parce que c'est quand même compliqué, la vie. Est-ce que la vie est faite de conflits? Oui. Est-ce que la vie est faite de combats? Oui. D'incompréhension? Oui, mais regardez la souffrance de David dans les psaumes. Comment il en est même arrivé à perdre ses amis? Parce qu'on ne peut pas bâcler un verset comme ça à la légère. On est dans la compréhension de cette grâce. Je vous donnerai du repos. Dieu n'a pas changé. Je peux vous dire que quel que soit ce qui se passera, Dieu donne du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, est chargé et je vous donnerai du repos. Je l'ai déjà expliqué en son temps, dans ce texte que nous avons lu, il y a deux repos. Il y a un repos que Dieu donne, c'est un don. Lorsque vous venez au calvaire, lorsque vous vous approchez de la croix, lorsque vous venez à Jésus fatigué, chargé, péché, etc., lorsque vous venez à Jésus-Christ, il vous donne ce que moi j'appelle le repos de l'âme. Je vous donnerai du repos. Il n'y a rien à faire. Sinon, se repentir vraiment. Écoutez bien, mes frères et sœurs, parce que je l'ai dit, mais je sais qu'il me faut le redire. Et je dois le faire avec amour et avec cœur. Écoutez bien, il y a deux repos. Il y a un repos que Dieu donne. C'est un don, que son nom soit béni. Personne n'a l'argent pour le payer. Il n'y a aucun prix. Rien ne peut sur la terre acheter une goutte du sang de Jésus-Christ. Ce n'est pas la peine d'en parler. Je vous donnerai du repos. Mais Jésus, dans son invitation, il part. Il y en a qui l'écoutent, il y en a qui ne l'écoutent pas. Il y en a qui s'interrogent, etc. Je ne sais pas où vous en êtes, vous. Peut-être au début de votre vie chrétienne ou maintenant. Et il rajoute, recevez mes instructions. Prenez mon joug sur vous et vous. Et vous trouverez le repos, car mon joug est doux et mon fardeau léger. C'est un autre repos, celui-là, il ne nous le donne pas. Celui-là, c'est nous qu'on le trouve. Ce verbe indique qu'il y a un effort. Quand on a perdu quelque chose, on le cherche pour le trouver. Et quand Jésus parle de ce deuxième repos, ce n'est pas le repos de l'âme qui est lié au salut, c'est le repos de la foi qui est lié à l'intelligence de recevoir ses instructions. Prenez mon joug, j'en ai déjà parlé, vous avez déjà vu un joug, j'en ai même, je crois, mis, j'en ai projeté pour expliquer aux gens qui n'en ont jamais vu cette pièce de bois où on attelle deux animaux ensemble pour qu'ils puissent travailler, labourer, porter une charrette, etc. C'est l'image de l'union, le joug, et du service. Quand on attelait deux bêtes, elles devaient savoir qu'elles allaient certainement faire des efforts. Le joug, c'est une image extraordinaire. Quelle vous préférez, ou l'union ou le service? Les deux. Quand on est uni à Jésus, je ne vois pas comment on pourrait ne pas le servir. Et il faut comprendre les choses. Mes frères et sœurs, le Seigneur dit, heureux ceux qui comprennent, écoutez avec un cœur honnête. Moi, je suis peiné lorsque je vois des chrétiens qui ont 3 ans, 5 ans de conversion, qui sont toujours dans le découragement. Je sais que ça peut arriver, je l'ai vécu. Je vous l'ai dit, moi aussi je vais être honnête. J'ai même perdu la joie du salut quand j'étais pasteur en Polynésie. Vous savez, quand vous prêchez et que vous prêchez sur le salut et que vous n'avez même plus la joie du salut, je vous assure, c'est très très intéressant comme situation. Quand vous prêchez, venez à moi, vous toutes, et je vous donnerai du repos, et que vous êtes à 10 000 kilomètres et que vous n'êtes pas en désaccord parce que vous savez que c'est vrai, mais vous ne le vivez plus. C'est très intéressant comme expérience. C'est très intéressant. De se tenir accroché de peur de tomber parce qu'on est fatigué, c'est très, très intéressant. Mais je l'ai vécu et c'est bien parce que ça me permet d'être à l'aise avec vous dans un moment comme celui-ci où je n'ai pas l'intention de devenir un donneur de leçons, mais plutôt quelqu'un qui a envie d'apprendre du Seigneur pour entrer dans le repos. C'est un commandement. Est-ce que c'est écrit dans la Bible? Empressons-nous d'entrer dans ce repos. Afin que personne ne tombe en donnant cet exemple de désobéissance, parce que la désobéissance est un exemple, pas un bon, bien sûr. Mais si vous méditez Hébreux 3 et Hébreux 4, la conclusion que nous citait tout à l'heure ce matin Jonathan dans les cantiques, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce, c'est lié à cette affaire-là. Méditez-le, méditez Hébreux 3 et 4, et vous verrez qu'il y a une dizaine de fois le mot « mais empressons-nous d'entrer dans ce repos ». Tout à l'heure, si nous sommes de vrais disciples, que nous soyons dans la maladie spirituelle ou dans la santé, qu'importe, ce n'est pas tellement grave pour Dieu. Ce qui est important, c'est qu'il puisse nous toucher. Est-ce que vous voulez que Dieu vous touche ce matin? Est-ce que vous voulez pouvoir dire, mais oui, me guéris mon âme, parce que moi, franchement, j'en ai marre d'être toujours découragé, et surtout de décourager les autres, parce que franchement, c'est pénible lorsque vous avez affaire à quelqu'un qui est tout le temps négatif. Oui ou non? Alors le mépris, c'est un verset, il faut... Plus que le mépris est un péché, il faut qu'on en parle, mais d'une manière intelligente, et pas bâcler ça en disant, tu méprises ton prochain, mais point barre, c'est comme ça, et bien voilà. Non! Pas avec des proverbes français super intelligents qui, en fin de compte, aggravent notre comportement devant Dieu. Pourquoi tant de... Moi, je suis peiné quand il y a des proverbes. L'autre jour, j'en lisais un proverbe chinois. Oui, c'est pour vous faire rire, sourire que je vous dis ça. C'est un proverbe chinois. Alors, c'était écrit, celui qui ne sait pas où il va mettre longtemps pour y aller. Et j'ai dit, oui, mais ça, c'est sûr. Celui qui ne sait pas où il va mettre longtemps. Oui, je me suis dit, oui, c'est vrai. Spirituellement, c'est certainement vrai aussi. Celui qui n'écoute pas les instructions, il ne va pas trop savoir où il va aller. Vous voyez, il y a des problèmes. Mais il y en a d'autres, mes frères et sœurs, que l'indifférence est le meilleur des mépris. Moi, je peux vous dire que ça ne va pas du tout. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut faire ce qu'on va faire maintenant. Parce que, je le répète, notre âme peut être en difficulté, même avec nos amis. C'est David qui dit, mais si c'était un, je l'ai déjà cité ce texte, mais ça fait rire. Si c'était un ennemi, je le supporterais. Mais toi, mon confident et mon ami, avec qui nous allions en foule à la maison de Dieu, il comprend pas qu'il puisse avoir été en opposition. Mais on a de l'opposition. Il y a, je le répète, les faiblesses, les manquements, etc. Mais il y a aussi l'adversité et le combat. Il y a ce qui se trame dans l'invisible. Alors c'est vrai que moi, par rapport à la situation, je pourrais vous parler que de paix et de repos, et ça serait super cohérent. Mais quand même, regardons ce que Jésus dit aussi. Dans Matthieu, juste avant de faire cette merveilleuse invitation, il donne un certain enseignement. Un certain enseignement qui est lié au fait que lorsque nous acceptons Jésus, qu'est-ce qui se passe quand on accepte Jésus ? On entre dans le royaume de la lumière. Et les gens de notre famille qui ne se convertissent pas restent dans le royaume des ténèbres. Qu'est-ce qui se passe donc ? Écoutez bien, mes frères et sœurs. Matthieu 10, verset, on va lire d'abord le verset 36. C'est une vérité, il faut être archi honnête. Regardez bien ce que Jésus, c'est Jésus qui parle. Regardez ce qu'il dit. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. C'est qui c'est signé Jésus. Ah ben, mais qu'est-ce que tu fais alors? Tu nous parles de repos, maintenant tu nous dis que... Écoutez bien, frères et sœurs, c'est comme ça qu'on entre dans le repos. Oui, un chrétien qui passe par le calvaire, qui accepte Jésus comme sauveur et comme Seigneur, qui reçoit le repos de l'âme et qui entre dans le repos de la foi, c'est-à-dire de l'obéissance joyeuse, comme il a chanté, il va avoir cet inévitable pour ennemi les gens de sa propre maison. C'est pour cela que ne vous traumatisez pas si vous êtes, entre guillemets, fâché ou en distance avec des gens de la famille parce qu'ils n'ont pas supporté quand vous leur avez dit tout simplement, ben, tu sais, moi je m'aime pas. Mais il est complètement fou. Il est devenu fou. Mais je pense qu'il est tombé dans une secte. On ne l'a pas vécu ça, plus ou moins. C'est normal, à tel point que dans le sermon sur la montagne, écoutez bien, Jésus va dire, mais heureux serez-vous lorsqu'on se moquera de vous, parce que votre récompense sera grande dans le royaume des cieux. Le Seigneur, il sait qu'on a besoin de consolation. Bon, la consolation, c'est une chose. Mais après, il y a le comportement. Quoique la consolation peut aider à avoir un meilleur comportement. Il y a des chrétiens qui ne lisent pas la Bible. Et ça, c'est presque impossible, je vous le dis honnêtement, c'est presque impossible d'avoir Jésus pour Seigneur si on ne lit pas la Bible. Donc, on est dans ce texte, le mépris, c'est grave, puisque c'est un péché, celui qui méprise son frère, mais vous prenez la concordance. Les papas et les mamans, cette semaine, prenez la concordance et prenez les 5 ou 6 premiers textes où il est parlé de l'homme qui méprise. Comment Ésaü a méprisé, c'est le premier texte, comment Ésaü a méprisé son droit d'aînesse. Vous savez ce qui est arrivé à cet homme parce qu'il a préféré un plat de lentilles. Comment ça s'est terminé pour lui? Comment ça se termine? Qu'est-ce qui est dit dans les commandements à l'homme qui méprise son père ou sa mère? Qu'est-ce qui est dit dans la Bible? Qu'est-ce qui est dit sur les hommes qui méprisent, je le dis, parce que c'est les ministères. Il y a des gens qui sont en vrac parce qu'ils ont méprisé les ministères. Mais lisez-le. Le mépris, c'est un péché. Alors qu'il y a un combat, alors qu'il y a de l'adversité, alors qu'il y a des ténèbres opposées à la lumière. Alors lisons les 2 versets qui précèdent. C'est 34 et 35. Lisons-le, mes frères et sœurs, c'est archi important ces choses. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. J'espère que ce n'est pas la première fois que vous lisez ce verset, mais ça peut nous choquer la première fois qu'on lit ça. Oui ou non? Est-ce que ça peut nous choquer? Attends. Imaginez, vous parlez, tu sais, Jésus, le prince de la paix, il donne la paix, je vais t'offrir une Bible. Imaginez, le gars, il ouvre au hasard, paf, il tombe sur le verset, je ne suis pas venu apporter la paix. Mais qu'est-ce que c'est cette affaire? Alors qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire, bien sûr, que le Seigneur est le prince de la paix, mais que lorsque l'on est confronté à des gens, et pour peu que ce soit les gens de notre famille qui soient dans les ténèbres, il ne pourra pas y avoir la paix avec eux. Je ne suis pas venu apporter la paix, je suis venu apporter la paix, mais l'épée. Et puis d'accord, donc ça prouve quoi? Qu'il y a un combat. Mais qu'il faut que ce soit un bon combat. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et la belle-mère. Qu'est-ce que ça veut dire? Si moi je suis chrétien et que mon beau-père ne l'est pas, il va y avoir un conflit. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs avec mes beaux-parents jusqu'à ce qu'ils se convertissent. Et un peu de temps après, 11 ans après, ils se sont convertis et on n'était plus ennemis, on était frères et sœurs. Mais pendant 11 ans, il y avait un conflit. Est-ce que vous comprenez? Mais ça ne nous autorise pas pour autant à mépriser les gens. Car celui qui méprise son prochain commet un péché. Donc l'adversité, elle y est. Elle ne peut pas ne pas y être. Ne vous traumatisez pas parce que vous êtes fâché avec quelqu'un de la famille. Je vous le dis, mais d'une manière sérieuse. Parce qu'il y a des gens qui sont tout le temps... S'il y a des chrétiens qui s'en fichent complètement, il y a des chrétiens qui sont toujours dans la fausse culpabilité. C'est tout à fait normal qu'il y ait inimitié, qu'il y ait adversité avec des gens qui, dans votre famille, ne sont pas chrétiens, et pour peu qu'ils soient dans les ténèbres. Pour peu que vous voyez qu'ils pratiquent la sorcellerie, pour peu qu'ils aillent voir des voyantes, laissez-moi vous dire que toutes ces choses aggravent les ténèbres. Les ténèbres, vous avez vu, elles s'épaississent plus ou moins. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. C'est comme ça. Ne vous traumatisez pas. Mais ne méprisons pas. Qu'est-ce que la Bible nous demande de faire par rapport à nos ennemis? Il vous faut m'aider. Alors, parce que je ne sais plus. Comment il faut faire par rapport aux gens qui nous aiment pas, parce qu'on est chrétien, qui nous prennent pour des sectaires, qui disent qu'on est dans une secte? D'ailleurs, il y a des gens, quand ils vont passer devant Dieu, ils vont quand même avoir des comptes à rendre. Parce qu'ils auront empêché d'autres personnes de nous rejoindre. Ne va pas dans cette église, c'est une secte. Vous savez, dans le texte, dans le contexte de l'invitation, c'est le jugement. Oh, tiens, on va y retourner. Regardez, c'est juste après. Le contexte, c'est le fait qu'il faut se faire violence, même si en repos, il faut se faire violence pour y rentrer, ça c'est clair. Mais regardez, au verset 20, les reproches. C'est très très important d'étudier le contexte dans lequel Jésus a dit quelque chose. Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles. Parce qu'elle ne s'était pas repentie. Malheur à toi, Chorazin. Malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. C'est encore écrit au verset 24, c'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome, pourtant Sodome, ils étaient pas mal, hein, sera traité moins rigoureusement que toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que des fois, on me dit, monsieur Hugo, vous avez dit ça, moi je suis sûr que c'est pas vrai. J'ai dit dernièrement que le jugement sera proportionnel. De la même manière que les récompenses seront proportionnelles. Il y a des gens qui n'auront rien, ils vont être sauvés, ils n'auront rien. Bon, mais vous allez me dire, c'est pas trop grave, ils sont sauvés. Ok. D'accord? C'est grave ou c'est pas grave? Bon, alors vous pouvez répondre ce que vous voulez. Mais le jugement, et ce n'est pas les deux seuls textes, indique que le jugement sera proportionnel au comportement. Écoutez, si vous ne le croyez pas là, c'est pas moi qui le dis. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a un contexte. Il y a un contexte où nous devons justement faire très attention quand le Seigneur parle. Le Seigneur leur dit, mais pourquoi vous ne vous êtes pas repentis? Vous rendez compte? Le Seigneur prêchait. Le Seigneur Jésus prêchait et il faisait des miracles. Et les gens, ils l'ont rejeté. Et c'est pour ça qu'il dit, vous voyez, c'est ça là, cette miséricorde, on a du mal à comprendre. Après avoir été comme ça maltraité, il dit, ben, venez à moi et je vous donnerai du repos. Recevez mes instructions et vous trouverez, si on faisait vraiment attention au verbe dans la Bible. Je ne suis pas un professeur, je n'ai pas été à l'école et tout. Sincèrement, je sais bien que je n'y comprends pas toutes ces choses. Mais si on faisait quand même attention au verbe actif dans la Bible, je pense qu'on ferait réellement des progrès. Alors, c'est vrai, dans ma famille, ils me font la tête parce que je suis chrétien, mais je ne dois pas les mépriser. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois les bénir. Et ça, franchement, Matthieu 5, ça s'apprend de suite. Quelqu'un qui dit que si vous venez pour la première fois dans l'église et que vous aimiez Dieu, vous allez vous mettre à lire la Bible. Et il vous faudra pas 6 mois pour arriver à Matthieu chapitre 5. Vous voyez, c'est le, vraiment chapitre 5, je vous dis, même si vous lisez lentement, je pense au bout de 6 mois, vous y serez. D'accord ? Matthieu chapitre 5, vous voyez, qu'est-ce que Dieu dit ? C'est lui qui parle. Vous savez, quand c'est écrit, mais moi, je vous dis, là aussi, bon, là, c'est pas les vers, mais c'est quand même une conviction profonde, mais moi, c'est Dieu qui parle, le Seigneur. Moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Alors déjà, peut-être certains sont, et je le dis parce que je l'entends souvent, peut-être, c'est... maudire, qu'est-ce que ça veut dire, maudire ? Est-ce que tous les chrétiens sont capables de définir le mot maudire ? Ce n'est pas de l'introspection que je fais. C'est pour vous montrer qu'il faut comprendre les choses. Maudire, ça veut dire dire du mal. Il y a des gens qui disent du mal de nous. Parce qu'on est chrétien, parce qu'on parle de Jésus, etc. Qu'est-ce que Dieu nous demande ? De les aimer. Ah non, moi, aimer les ennemis, non, mais là, c'est là, ça, c'est, là je ne peux pas. Je ne peux pas. Aimer les ennemis, non, mais vous plaisantez ? Qu'est-ce que ça veut dire, aimer ses ennemis ? Qu'il faut leur sauter au cou et leur faire des bisous partout ? Est-ce que c'est ça que ça veut dire ? Je t'aime ! Le gars qui joue l'hypocrite à fond, mais je t'aime, tu le sais que je t'aime. Non, là, c'est de l'hypocrisie. Mais quand il est dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Seigneur, tu vois, dans ma famille, il y a des gens, ils ne me supportent pas parce que je suis chrétien. Bon, ben, c'est comme ça, tu l'as dit. Eh bien, je vais prier pour eux. Parce que bénir, quand vous priez pour quelqu'un, vous le bénissez. Et vous remarquerez qu'au bout de quelques semaines, de quelques mois, de quelques années, le fait de prier pour quelqu'un qui ne vous aime pas, vous allez vous mettre à l'aimer. C'est dingue, mais c'est la vérité. Et si le Seigneur nous donne des instructions, recevez mes instructions. Et la question que je nous pose, c'est vraiment, franchement, c'est presque du béaba ce que je fais ce matin. C'est pas, on n'est pas dans les hautes sphères. Mes frères et sœurs, qu'est-ce que je fais de ces instructions ? Recevez mes instructions et vous trouverez le repos. C'est normal que j'ai des ennemis, c'est normal qu'il y ait des gens qui soient contre moi, je ne vais pas le rappeler. Mais qu'est-ce que je fais ? Parce que quand même, si je pêche, qu'est-ce qui va arriver ? Ben, la Bible dit que celui qui pêche, ben, ses prières ne vont pas être exaucées. Il y a des gens qui se demandent, je ne comprends pas, je prie, ça ne sert à rien. Ben, vous, à la place de parler comme ça, et surtout de parler comme ça à Dieu, parce que là vraiment c'est le comble. Quand on s'autorise à dire, ouais, je ne comprends pas, je prie, tu ne m'exauces pas. Il vaudrait peut-être mieux se dire, Seigneur, montre-moi pourquoi tu ne m'exauces pas. Montre-moi pourquoi je suis toujours en vrac. Montre-moi pourquoi je suis tout le temps dans la défaite. C'est sûr que si vous vous attribuez des proverbes qui sont loin d'être bibliques, l'indifférence est le meilleur des mépris. Je vous dis, j'ai entendu une chrétienne dire ça à quelqu'un. J'ai pas osé intervenir, ce n'était pas ici, ce n'était pas dans cette église. Je n'ai pas osé intervenir parce que je pense que c'était pas. Vous savez, des fois, on n'ose pas, on ne sait pas. Bon. Mais je ne sais pas si j'aurais dû dire, écoute, c'est pas où tu l'as lu, ça. Celui qui méprise son prochain, il pêche. Et celui qui pêche, il n'est pas exaucé. Dieu fait grâce. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je sais que Dieu fait grâce. Mais quand même... Comment on peut chanter ces cantiques ? Nous l'acclamerons du nord jusqu'au sud. L'Église doit se relever. Vous l'avez chanté ? Il est beau ce cantique. Il est beau ce cantique. Comment on peut chanter des cantiques aussi beaux ? L'Église doit se relever pour le louer, pour l'adorer. Moi, je me suis régalé à chanter ces cantiques. Ils sont beaux. Mais il ne faut pas que les chanter avec cœur comme nous l'avons fait. Il faut que nous puissions dire, mais Seigneur, il faut que je trouve le repos. C'est ta volonté. Vous trouverez le repos, je le répète, c'est un verbe actif. Je dois me faire violent, Seigneur, mais montre-moi. Frères et sœurs, je suis sûr que si on s'arrêtait sur chaque proverbe, tiens, 31 proverbes, un par mois, un par jour, je le lis avec ma femme, après le soir ou une fois par semaine, allez, tiens, les enfants, on va prendre ce texte. Vous ne croyez pas que les enfants, ils seraient gagnants ? De partager des versets aussi simples que ça. Tu sais, ton professeur, il t'énerve. Mais il ne te faut pas le mépriser, il te faut prier pour lui. Plutôt que de faire comme cet enfant qui a dit, tu sais, le professeur, il n'est pas gentil. Et le chrétien, il a été mettre une baffe au professeur. Allez. Il y a des témoignages. Vous voyez, plein de gens qui ont compris qu'il faut se faire violence. Vous voyez comment les gens comprennent bien. Moi, je crois, mes frères et sœurs, que nous devrions être sérieux avec Dieu. Travailler à votre salut, c'est exactement ce qu'on est en train de faire, avec crainte et tremblement. C'est sérieux. Si Jésus dit, venez à moi, et je vous donnerai du repos, c'est sûr, Dieu donne du repos. Béni soit Dieu pour tous ceux qui ont accepté le salut. Mais ça ne suffit pas. Il ne dit pas, voilà, c'est comme ça. Et il ajoute, recevez mes instructions, prenez mon joug. Si vous n'obéissez pas à Dieu, si nous n'obéissons pas à Dieu, ne prenez pas mal. Si nous n'obéissons pas à Dieu, nous ne prenons pas le joug. C'est pour ça que nous sommes fatigués et que nous sommes chargés. Vous le croyez ce que Jésus dit? Franchement, est-ce que quelqu'un le croit? Que Jésus dit, vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Moi, franchement, mes frères et sœurs, ce que je vous dis, c'est de l'édification ou de l'évangélisation? Les deux. C'est les deux. Quelqu'un peut se convertir avec une prédication. D'ailleurs, si vous n'êtes pas converti, si vous n'êtes pas baptisé par immersion, si vous n'avez pas accepté Jésus comme sauveur, faites-le, parce que vous irez en enfer. Vous voyez que je sais faire de l'évangélisation. Et c'est vrai. Et si vous n'acceptez pas Jésus, vous irez en enfer. C'est pas compliqué. Vous n'allez pas aller au ciel parce que vous êtes catholique ou évangélique. Vous irez au ciel parce que vous vous repentirez. Et que vous viendrez vraiment en Jésus. Et que vous demeurerez en lui. Jésus a dit, venez à moi, demeurez en moi. Et il ajoute après à ceux qui ne sont pas écoutés, retirez-vous de moi. Qu'est-ce que vous préférez entendre? Venez à moi? Ou est-ce que vous préférez entendre de la même bouche? Retirez-vous de moi. C'est ce qui arrivera. Mais ceux qui sont intelligents ne peuvent que dire, mais moi je vais pas mépriser les gens. Je vais prier pour ce pays. Moi j'entends des gens, des fois, comment ils parlent des hommes politiques. Comment certains chrétiens... Moi je sais pas des gens qui m'attirent. Mais je prie pour eux. Je prie pour Monsieur Macron, pour sa femme. Pour M. Philippe, pour sa femme. Je prie pour les ministres. Je ne connais pas tous encore, mais je prie pour eux. Pourquoi? Pourquoi je prie pour les ministres? Après, je m'en pourrais me dire, j'ai autre chose à faire. Pourquoi? Parce que le Seigneur le demande. Priez pour ceux qui vous gouvernent. C'est écrit ou c'est pas écrit? Il y a des gens qui... Mais on va le lire. Mais mes frères et sœurs, recevez les instructions. Recevez-les. Si je ne me trompe pas, c'est dans 1 Timothée. C'est écrit, regardez, 1 Timothée, chapitre 2. Vous savez, mes frères, les instructions, c'est ça. Oh Seigneur, révèle-toi, montre-moi une vision, qu'un ange vienne me visiter. Il y a des gens, ils sont là, ils veulent faire des expériences. Mais mes frères et sœurs, si on ne commence pas à être fidèles dans les petites choses, ne vous attendez pas à ce qui est de grand. 1 Timothée, chapitre 2, verset 1er. C'est un commandement, recevez mes instructions. Moi, que vous soyez de droite, du gauche, du centre, ça n'a pas d'importance. Extrême gauche, extrême droite, si quand même. Mais que vous soyez des trois autres, ça m'est égal. Mais mes frères et sœurs, qu'est-ce que Dieu demande? 1 Timothée 2, 1. J'exhorte donc avant toute chose, donc ça veut dire même avant de prier pour ta femme ou pour tes enfants, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Pourquoi en fait? Pourquoi? Afin que nous menions une vie paisible et tranquille. C'est ça le repos. En toute piété et honnêteté, cela est bon et agréable. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Si vous êtes tout le temps en train de vous faire piéger, parce que les gens du monde, ils sont spécialisés, les journalistes, ils sont spécialisés, pour vous faire critiquer continuellement, si nous ne prions pas pour ceux qui nous gouvernent, si nous ne bénissons pas ceux qui nous gouvernent, nous ne mènerons pas une vie paisible et tranquille. On peut dire, je ne comprends pas, j'ai toujours le cafard, je ne comprends pas. Eh bien, mais comprenez-le. Seigneur, bénis M. Macron, je te prie pour lui. Je te prie pour que tu puisses l'aider. Recevez mes instructions. Je ne vous demande pas si vous êtes de quel parti, mais vous comprenez bien qu'on est chrétien, aujourd'hui on n'a pas de parti. Quand on est chrétien, on a un président, un grand président. on le gardera longtemps. Mes frères et sœurs, vous voulez une vie paisible et tranquille ? C'est ce qui est bon et agréable devant Dieu. Et nous devrions vraiment le souligner, nous devrions nous y arrêter. Moi, je vous assure, ça fait des mois que je réfléchis sur tout ce qui fait obstacle à la prière, parce qu'on veut un réveil, on veut que les choses se passent. Mais celui qui méprise son prochain commet un péché. Et moi, j'ai lu dans la Bible que si on vit dans le péché, le Seigneur n'exaucera pas notre prière. Alors Seigneur, Seigneur, tu m'as montré ce matin comment il fallait que je fasse. Oui, c'est normal, je ne vais pas me mettre à déprimer parce que ma mère ou mon frère ou ma sœur ne me parle plus, parce que mes tantes me font la tête depuis que j'ai pris le baptême. Eh bien, c'est pas grave. Heureux serez-vous. Seigneur, j'ai pris parti pour le royaume. Eh bien, je pense qu'il vaut mieux quand même être du côté du Seigneur. Parce que quand même, quand vous lisez dans la Bible, que ceux qui auront confessé publiquement Jésus dans les eaux du baptême, Jésus sera votre avocat. Il vaut mieux avoir trois tatis ou trois tontons ou un papa et une maman contre que d'avoir Jésus pour juge. Vous croyez pas? Alors ça ne veut pas dire qu'il faut les mépriser, mais au contraire, dans votre moment de prière, eh bien Seigneur, je reçois tes instructions, je veux trouver ce repos. Ce n'est pas normal que je chante des trucs et que je n'arrive pas à les vivre. Ce n'est pas normal que je comprenne pas ce qui fait obstacle à la prière. Des fois on dit, mais pourquoi il n'y a pas de réveil? Il y a des gens plus, ils se disent, ouais, pourquoi Dieu ne fait rien? Et pourquoi il ne se passe pas ça? Et pourquoi mes enfants? Et pourquoi l'église? Mais ne vous occupez pas des autres. Occupez-vous de vous. Que t'importent les autres? Toi, suis-moi. Ça ne veut pas dire les autres s'en fichent, bien au contraire. Ça veut dire, si tu pries pour les autres, Dieu s'occupera des autres. C'est ça que ça veut dire. Vous comprenez bien qu'il n'y a aucun mépris, justement, dans les propos de Jésus. Que t'importent les autres? Prie pour les autres. Si Dieu veut incliner le cœur de tel député, vous savez, moi je vois comment, on n'en parle jamais parce qu'on attend que les choses soient vraiment réglées, comment Dieu a incliné le cœur de certaines autorités de Toulouse pour qu'on l'on puisse un jour bouger d'ici. Mais vraiment, vraiment, quand Dieu veut quelque chose, il le fait. C'est Dieu qui incline les cœurs. Il est tout puissant. Vous le croyez qu'il est tout puissant? Qu'est-ce que ça veut dire tout puissant? Mais regardez dans un dico. Regardez ce que ça veut dire. Parce que le jour où vous comprendrez que Dieu est tout-puissant, je peux vous dire que vous ne ferez pas beaucoup de soucis. Il est tout-puissant, ça veut dire qu'il peut tout. Le diable, il est puissant. Mais quand même, sa puissance est limitée. La preuve, c'est qu'il ne savait même pas ce qui se passait dans la tête de Job. Par contre, Dieu lui savait. Il est tout-puissant, mes frères et sœurs. Et quand il dit « Venez à moi, je vous donnerai du repos », il ne faut pas se contenter du salut de l'âme, du repos de l'âme, il faut le repos de la foi. Le repos de la foi, le repos de la confiance qui est liée à l'obéissance. Recevez mes instructions. Vous avez vu, je termine avec le témoignage qu'on a partagé mardi. Vous vous rappelez de qui on a parlé mardi? Vous vous rappelez Madame Bourdet? On a parlé de Gédéon. Vous rappelez Gédéon? Écoutez bien mes frères et sœurs. Parce que j'avais dit dans la prédication de dimanche dernier qu'il y a des hommes qui ont donné un nom nouveau au Seigneur parce qu'ils avaient fait une expérience. Gédéon était dans une situation très 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 difficile. Le pays était en vrac depuis 7 années et vraiment ils étaient malheureux, etc. L'ennemi les oppressait, etc., etc., etc. Et Gédéon, lui, il était bien sûr dans le questionnement, mais il était dans le service, parce qu'il nous est dit qu'il battait du froment, c'est-à-dire du blé, dans le pressoir, c'est-à-dire dans la cave. Le blé, on l'évente et on le presse à l'air libre. Pourquoi? Pour que la balle s'envole. C'est lui qui a dû inventer le pain complet d'ailleurs. Mais mes frères et sœurs, il le faisait. Pourquoi? Parce qu'il voulait de la farine pour sa famille. Et là, Dieu, il faisait quelque chose. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Il y a des gens, ils sont paresseux. La paresse, c'est pire que le mépris. Il y a des chrétiens, ils sont dans une paresse totale. Ils devraient dire, mais c'est vrai, je ne fais rien. Moi, je vous le dis. Levez-vous, parce que ça va mal se passer. Les paresseux, quand vous lisez Matthieu 25, vous vous faites du souci pour les paresseux. Gédéon, il fait quelque chose. Ce n'est pas le réveil, mais enfin, au moins, il fait quelque chose pour sa famille. Et pourtant, sa famille, ce n'est pas le top. Il fait quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Dieu le voit, du haut des cieux. Dieu, au bout de 7 ans, écoutez bien, il voit un jeune homme qui correspond. Donc il va vers lui, lui parle, il ne se rend pas compte qu'il a affaire à l'ange de l'Éternel, mais au bout d'un moment quand même, l'entretien devrait produire d'ailleurs la même chose sur nous après une prédication comme celle-ci, il va dire, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Il est, vous voyez, il est dans son questionnement, mais commence à réaliser qu'il a affaire à la grâce de Dieu. Frères et sœurs, sérieusement, on est là depuis 1h30. Je ne sais pas depuis combien de temps vous marchez avec Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? Réellement, c'est des questions sérieuses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire oui. C'est peut-être pas le top, mais quand même, j'ai trouvé grâce aux yeux de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent le dire? Oui, moi, je fais partie de ces gens-là. Est-ce que vous pouvez dire, oui, j'ai trouvé grâce aux yeux de Dieu? Si on est là, sérieusement. Oui ou non? Donc, ça commence avec de l'intelligence, de la réflexion. Si j'ai trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et donc, il est poussé quand, franchement, frères et sœurs, moi, je ne veux pas polémiquer, mais quand vous avez trouvé grâce aux yeux de Dieu, vous ne pouvez pas faire quelque chose. Et de lui-même, il va dire, mais si j'ai trouvé grâce à Dieu, laisse-moi t'offrir un sacrifice. Il ne sait pas qu'il a affaire à Dieu. Il sait qu'il a affaire à la grâce de Dieu. Il croit peut-être que c'est un prophète, que c'est un ange, peut-être jusque-là. Il ne réalise pas qu'il a affaire à Dieu lui-même, ce qu'on appelle une théophanie ou une christophanie. Il a affaire à Dieu lui-même. Donc, il offre un chevreau, et puis, quand il offre le chevreau et qu'il l'offre en sacrifice, l'ange de l'Éternel monte dans la fumée. Il se rend compte qu'il a affaire à Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? De lui-même, il offre un autel. Il construit un autel. Et il l'appelle Jéhovah Shalom. Ça veut dire l'Éternel paix. Il a fait ce qu'il avait à faire. Et le pays est pas en paix, croyez-moi. Et sa famille non plus. Parce que dans sa famille, il y a des choses qui vont devoir changer d'abord. Avant que, il est rempli du Saint-Esprit après. Non pas, on veut être rempli du Saint-Esprit, on est là, bloqué par le parler en langue, on ferait mieux de s'occuper d'abord de la présence de Dieu et des dons, et des fruits. Parce que vous savez, quand on est rempli du Saint-Esprit, sérieusement, on porte du fruit. Et si vous êtes toujours dans le murmure, remettez en question votre baptême, moi je vous le dis. Et Gédéon, il construit un autel, il l'appelle l'Éternel paix, et Dieu lui dit, bon maintenant, tu vas aller dans ta maison, et tu vas enlever l'idole qu'il y a, parce qu'il y a des choses, il faut les faire à la maison. L'église, c'est facile. Mais à la maison, il peut y avoir des idoles. Tu vas dans la maison de ton père, c'était l'idole de son père, parce que Dieu peut nous demander des choses, ça aussi, ça nous dépasse. Mais Dieu peut nous demander de faire des choses dans notre maison. Et il va le faire de la nuit. Pourquoi il le fait la nuit? Pourquoi il le fait la nuit? Parce qu'il a peur. Mais il le fait. C'est pas grave qu'on le fasse le jour ou la nuit. Ce qui est important, c'est de faire ce que Dieu nous demande. Et il le fait, ça va créer une histoire, ça aussi, là, c'est sûr que ça va créer une histoire. Mais c'est bizarre. Juste après, il nous est dit que Gédéon a été rempli du Saint-Esprit. Il est en paix. Vous savez, mes frères et sœurs, quand Paul, vous voyez, je donne un autre exemple pour faciliter la compréhension. Quand Paul parle du combat, de nous revêtir de toutes les armes de Dieu, il est en prison, qu'est-ce qu'il dit d'abord? Il dit, soyez assis dans les lieux célestes. Oui ou non? Chapitre 2. Vous êtes assis dans les lieux célestes. Avant de combattre, il faut être dans le repos. Alléluia. Et Dieu donne le repos. Il le donne et on le trouve. Alors on va fermer les yeux, mais vraiment sérieusement. Sincèrement, on a chanté, on a loué, on a apporté nos offrandes, on a écouté la parole. Qu'est-ce que vous en faites maintenant? Répondez au Seigneur, pas haute voix, bien sûr. Qu'est-ce que vous faites de cette énième invitation? Qu'est-ce que vous en faites? Vous avez entendu celui qui méprise son frère? Il commet un péché. Donc si vos prières ne sont pas exaucées, peut-être que ça vient de là. Peut-être parce que c'est la paresse qui vous a vraiment, qui est le résultat. Parce que la paresse, je vais vous dire, la paresse, elle est le résultat, c'est biblique, hein, d'un homme qui n'a plus de communion avec Dieu. Quelqu'un qui est en communion avec Dieu, il ne peut pas ne pas servir. Alors Dieu nous aidera. Il a aidé David. Vous savez, ça a été écrit, c'est dans la Bible, « Guéris mon âme ». C'était grave, hein? C'était archi grave. Mais il l'a dit. Il n'y a pas de honte à dire « Guéris mon âme ». Il n'y a pas de plus grande bénédiction, d'ailleurs. « Seigneur, guéris-moi, je suis un paresseux. Guéris-moi, je fais que critiquer. Je fais que critiquer les églises. Ça, écoutez-moi, quand vous aimez Dieu, vous critiquez pas les églises. Quand vous aimez, vous pouvez dénoncer le péché, ça c'est autre chose. Mais quand vous aimez Dieu, vous aimez le corps de Christ. Parce que la tête du corps, c'est le Seigneur. Alors on va se lever pour prendre le pain et le vin, mais je voudrais que nous entrions dans le repos, que nous trouvions le repos, que nous saisissions ses faveurs. Madame Loupia priait tout à l'heure, elle disait, c'est vrai qu'il y a des situations difficiles, mais qu'est-ce que tu as dit Seigneur? Prenez courage, vous aurez des tribulations, prenez courage. Oui, je le prends, j'ai besoin de courage. Eh bien Dieu, prenez-le. Pendant la Sainte-Cène, est-ce que quelqu'un peut prendre du courage? Est-ce que Dieu va te dire non, pas toi? Venez à moi, vous tous. Alors levons-nous, mes frères et sœurs, avec beaucoup de respect. Travaillons à notre salut, avec respect, avec tremblement, avec courage, avec joie surtout. Travaillons avec joie à notre salut. Alléluia. Vous voulez vous lever, vous qui avez pris le baptême par immersion? Vous qui avez accepté Jésus comme sauveur, qu'il avait accepté comme Seigneur? Qu'est-ce que vous faites de ces quelques instructions que j'ai rappelées ce matin? Qu'est-ce que vous allez en faire? Est-ce que nous allons endurcir notre cœur? Parce que si nous entendons et que nous n'obéissons pas, nous endurcissons notre cœur. Mais si nous disons, oui, je les ai notées, vous inquiétez pas, je vais les appliquer. Je vais prier pour notre président, je vais prier pour le maire de Toulouse ou le maire de la commune dans laquelle je suis. Je vais bénir les gens de ma famille qui m'ont sali. Les gens qui me critiquent, qui ne veulent plus me voir, eh bien, je vais les bénir. Mais attendez-vous à ce que les prières soient exaucées. Notre Dieu sait ce qu'il a à nous dire. Que son nom soit béni. Répondons à cette prédication, répondons-lui. Notre Père, notre Dieu, nous voudrions, comme Gédéon, que cet autel soit implanté dans le plus profond de notre âme, que ta paix, ta grande paix, puisque tu es le prince de la paix, malgré toutes ces difficultés que certains membres de notre famille soient des ennemis parce qu'ils sont dans les ténèbres, eh bien nous acceptons ces choses, Seigneur. Nous l'acceptons. Nous acceptons que dans nos familles, il y ait des gens qui soient devenus nos ennemis. Si nous acceptons et nous voulons les bénir, Seigneur. Vraiment, tous. Tous. Nous voulons non seulement bénir nos amis, nos ennemis, mais nous voulons bénir surtout ton nom pour l'œuvre de la croix. Parce que ce petit peu de vin, et ce petit peu de vin nous émeut vraiment, Seigneur. Merci pour la croix, oui. Nous l'avons chanté, mais nous savons que si un homme peut venir à toi et s'approcher du trône de la grâce, c'est pas parce qu'il peut galoper vers toi, mais c'est parce que toi, tu es venu vers nous. C'est toi qui as couru vers nous. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Béni soit l'Éternel.